et de faire le ménage. Elle était inculte, dénuée de passion. Après coup, quand ils étaient arrivés au bout de leurs engueulades, ils se saoulaient ensemble et baisaient comme des adolescents en rut. Mais ce n'était plus comme avant, et ils le savaient l'un comme l'autre. Chacun avait proféré des paroles cinglantes, et à eux deux, sans qu'aucun soit plus coupable que l'autre, ils avaient fait exploser la bulle matrimoniale au point de ne plus se supporter. Alors il avait loué un trois pièces dans South Portland, et entamé une liaison avec une auxiliaire juridique de 27 ans, nommée Holly. Et Claire s'était mise à coucher avec son coiffeur, un type à moitié italien avec une queue de cheval, qu'il appelait Bambina, et lui laissait des marques d'ongles sur le cul. Le recul, comme toujours notre plus cruel et plus perspicace conseiller, lui avait enseigné quelques vérités douloureuses. Il aurait dû avoir une attitude plus positive. Il aurait dû se rendre compte que sa femme, même si elle ne travaillait pas à la criminelle, en bavait chaque jour à essayer d'élever une famille. Mais c'était bien joli de dire ça maintenant, alors que tout avait volé en éclats. « Avec la plupart des mecs, avait-elle l'habitude de dire, il faut attendre avant qu'ils se mettent à merder. Mais avec toi, il n'y a pas d'attente, tu merdes avant même d'être arrivé. » Le divorce avait été prononcé en novembre 2001. Alors que Caitlin avait 13 ans et Robert 2 de plus. Claire avait obtenu la garde. Frank les voyait le week-end. Après le lycée, ils étaient rentrés en fac, avaient commencé à se colter avec le monde. Ils étaient indéniablement la meilleure chose que leur mariage avait produite. Ils étaient ce qu'il avait fait de mieux. Paris atteignit le 9e étage, au bord de la crise cardiaque. Il s'arrêta un moment, appuyé contre le mur, le cœur cognant à tout rompre. Une femme noire ouvrit la porte de l'un des appartements, le dévisagea curieusement comme s'il avait sorti sa queue et l'avait agitée dans sa direction. Sans poser de questions, sans prononcer un mot, elle referma la porte. Il tenta de prendre une profonde inspiration, s'engagea dans le couloir et pénétra dans l'appartement de Danny Lange grâce à une clé trouvée dans la poche de ce dernier. Tout le reste avait été soit consigné en tant que pièce à conviction, soit laissé sur place à la disposition de l'équipe scientifique. À l'intérieur, les lumières étaient allumées. Et il régnait une odeur fétide. Elle était trop jeune pour que la lassitude se lise sur son visage, ou même dans ses yeux. Des yeux qui lui retournèrent son regard avec le calme et l'étonnement incrédule si manifeste chaque fois que la mort survenait par surprise. Elle était en sous-vêtements. Sa peau avait la couleur de l'albâtre. Blanche. Avec la légère ombre bleuâtre qui apparaît peu de temps après que la respiration a cessé. Ce qui surprit le plus Franck, fut qu'il n'était absolument pas surpris. Une fille morte sur le lit de Danny Lange. Comme ça. Plus tard, il se rappellerait lui avoir dit quelque chose, mais il ne se souviendrait pas quoi. Il attrapa une chaise et resta un moment assis en silence. Elle devait avoir 16 ans, peut-être 17. Difficile de savoir de nos jours. Ses cheveux mi-longs entouraient son visage. Elle était belle, aucun doute là-dessus. Et ses ongles et ses orteils étaient couverts d'un vernis rouge appliqué avec une minutie et une précision phénoménales. Elle était presque en tout point parfaite, si l'on exceptait la contusion livide à la base de sa gorge. La strangulation fut confirmée lorsque Parrish s'agenouilla par terre et examina ses yeux avec sa lampe torche. Les minuscules points rouges caractéristiques d'une hémorragie pétéchiale étaient là, sur ses paupières, et aussi derrière ses oreilles. Il n'avait pas vu Danny depuis 2 ans. C'était un junkie et un voleur, mais pas un assassin. Cela dit, les temps avaient changé. Ce n'était pas que les gens faisaient des choses pires que 15 ou 20 ans plus tôt. C'était simplement qu'ils étaient plus nombreux à les faire. Parrish téléphona pour signaler sa découverte. L'opérateur répondit qu'il prévenait le bureau du coroner et l'équipe scientifique. Parrish fit le tour de l'appartement. Salon, cuisine, salle de bain minuscule, retour à la fille sur le lit. Son visage avait quelque chose de familier. Et il comprit soudain pourquoi. Elle ressemblait à Danny. 15 minutes plus tard, les soupçons de Parrish furent confirmés. Il trouva un petit paquet de photos. Maman, Danny, la fille morte sur le lit. sans contraint qu'il s'agissait de la petite sœur de Danny. Sur les photos, elle n'avait pas plus de 10 ou 11 ans. Une gamine radieuse, tout sourire et couverte de taches de rousseur. Quant à Danny, il avait l'air d'un brave gamin. Il n'avait de toute évidence pas encore plongé dans la dope. Une mère et ses deux enfants. Une photo de famille ordinaire. Mais les familles ordinaires existaient-elles? Ou y avait-il une ombre tapie derrière la porte de chaque foyer? Il tira un sachet en plastique de sa poche de veste et y enfonça les photos. Puis il retourna s'asseoir sur la chaise près du lit. Il voulait rester avec la fille jusqu'à l'arrivée des autres. Une heure et demie plus tard, Parrish était assis près de la fenêtre dans un petit restaurant de Joralemon Street, non loin de San Francisco College. Une assiette posée devant lui. Il avait réussi à avaler quelques bouchées, mais la brûlure acide s'était réveillée, quelque part au fond de ses tripes. Un ulcère peut-être. Un médecin mettrait ça sur le compte de l'alcool. « Buvez moins, » il dirait. « À votre âge, vous devriez vous souvenir que le corps se fatigue plus vite et se remet plus lentement. » Parrish parcourut la demi-douzaine de pages de notes qu'il avait prises dans l'appartement de Danny Lange. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Le coroner adjoint avait emmené le corps, sanglé et étiqueté, et l'autopsie aurait lieu dans la soirée ou plus probablement le lendemain. Ses observations initiales collaient avec celles de Parrish. « Empreinte de pouce ici et ici, » avait-il dit à Parrish. « Doigts ici, ici et ici. » Les marques sont plus sombres sur le côté gauche du cou, ce qui signifie que le type qui l'a étranglé était sans doute droitier. Impossible d'en être absolument certain, mais c'est plus que probable. Le coroner adjoint avait inspecté les ongles de la fille à la recherche de bouts de peau, ses cheveux et ses poils pubiens à la recherche de corps étrangers, examiné l'intérieur de sa bouche, cherché des lacérations, des contusions, des abrasions, des morsures, des traces de piqûres, des restes de rubans adhésifs sur les chevilles et les poignets, des brûlures provoquées par une corde, des signes d'entrave, d'hémorragie sous-cutanée, des résidus externes d'éléments toxiques, des traces de sperme, de salive et de sang. Elle était en plutôt bon état. Je peux rechercher des traces de viol, confirmer la cause du décès et vous tenir informé dans les 24 heures, peut-être 48, avait-il dit. Je pourrais peut-être effectuer un examen toxicologique, mais ça prendra un peu plus de temps. À vue de nez, je dirais qu'elle est morte depuis, je ne sais pas, environ 8 heures. La lividité indique qu'elle a été tuée ici. Je ne crois pas qu'elle ait été déplacée. Ils se serrèrent la main et Parrish s'en alla. Il était donc maintenant dans un petit restaurant devant un ragoût de thon, un bagel et une tasse de café. Le ragoût était bon, mais il avait perdu l'appétit. Il pensait constamment à Eve, au fait qu'il n'avait pas réussi à bander dans la matinée. Manifestement tout foutait les camps. Et à ce train-là, il n'en aurait plus pour longtemps. Il avait besoin de faire du sport, d'y aller mollo sur les clopes, l'alcool, les graisses hydrogénées, les féculents, les milkshakes, les chips et les biscuits. Il avait besoin de vacances. Mais il savait qu'il n'en prendrait pas. Son père avait l'habitude de demander « Que désires-tu le plus ? Et qu'es-tu prêt à faire pour l'obtenir ?» À quoi il pouvait désormais ajouter sa propre variante « Que crains-tu le plus ? Et qu'es-tu prêt à faire pour l'éviter ?» Pour le moment, ce qu'il souhaitait éviter le plus, c'était une nouvelle séance avec la psychothérapeute. Chapitre 6. Mardi 2 septembre 2008. Pourquoi êtes-vous devenu flic, Frank? Pourquoi êtes-vous devenu psy? Je n'aime pas ce terme. Vous croyez que j'aime être traité de flic? Ok. Pourquoi êtes-vous devenu agent de police? Pourquoi êtes-vous devenu décortiqueuse de tête? Très drôle, Frank. Vous voulez réellement continuer de jouer chaque jour ce genre de petit jeu? Non, pas vraiment. Je veux continuer d'élucider des meurtres. Eh bien, soit, Frank. Mais le fait est que si vous ne continuez pas à venir me voir régulièrement, vous serez suspendu. Donc, soit vous venez et vous pouvez continuer de travailler, soit vous refusez et vous restez chez vous. Qu'est-ce que vous préférez ? La première option. Bien. Donc, je vais jouer carte sur.